Fiodor Pavlovitch était encore à table. Comme à l'ordinaire, la table était servie dans le salon et non dans la salle à manger. Dans l'angle le plus éclairé se trouvait une icône, devant laquelle brûlait une lampe, non pas pour un motif de piété, mais afin que la pièce fût éclairée pendant toute la nuit. Fiodor Pavlovitch se couchait très tard, à 3 ou 4 heures du matin. Il passait le temps à se promener de long en large dans la chambre ou à réfléchir dans son fauteuil. Quand Alyosha entra, le dîner se terminait. On servait les confitures et le café. Fiodor Pavlovitch aimait les douceurs après le dîner avec le cognac. Ivan était là. Les domestiques Grigori et Smerdiakov se tenaient près de la table. Les maîtres et les domestiques étaient visiblement de bonne humeur. Fiodor Pavlovitch riait aux éclats. Alyosha, dès le vestibule, reconnut ce rire perçant qu'il connaissait si bien, mais il en conclut que son père n'était pas encore ivre. « Ah, le voilà aussi !» s'écria Fiodor Pavlovitch, enchanté de voir Alyosha. « Assieds-toi avec nous, un peu de café ?»« Oh, c'est du café de carême, sans crème, n'aie pas peur. »« Et il est chaud, de l'excellent mocha. »« Bon, je t'offre pas de ce bon petit cognac, je sais que tu es un ascète. »« Et pourtant, en veux-tu ?»« Non, non, je te donnerai plutôt des liqueurs, de très douces liqueurs. » Smerdiakov, va au buffet, tu les trouveras sur le second rayon à droite. Oui, voici les clés, vite. Alyosha essayait de refuser. On les servira quand même, si t'en veux pas, nous en prendrons. As-tu dîné? Oui, dit Alyosha, quoiqu'il n'eût mangé qu'un morceau de pain arrosé d'un verre de kvass à l'office du supérieur. Mais je veux bien une tasse de café chaud. « Ah, le gaillard, il veut bien une tasse de café. Sera-t-il assez chaud ?»« Ah oui, il est encore bouillant. »« C'est Smerdiakov qui l'a préparé. »« Oh, il s'y entend. »« Il n'a pas son pareil pour le café, le kulemilaka et l'aouka. »« Allez, viens un jour manger l'aouka chez nous. »« Avertis-moi d'avance. »« D'ailleurs, ne t'ai-je pas dit de transporter ici ton matelas ? Tu l'as fait ?» « Non, je ne l'ai pas apporté, » répondit Alyosha en souriant. « Ha ha, tu as peur, n'est-ce pas? Mais pouvais-je vouloir te chagriner réellement ?»« Écoute, Ivan, je ne puis pas me tenir de joie quand il me regarde ainsi en riant. Toute mon âme rit de plaisir, rien qu'à le voir. Je l'aime, allez Alyosha, viens que je te bénisse. » Alyosha se leva, mais Fiodor Pavlovitch avait déjà changé de dessein. « Non, non, je vais seulement faire un signe de croix. Oh, c'est ça, va t'asseoir. Tiens, voici l'âne de Balaam qui revient chargé de liqueur. » Cette âne de Balaam n'était autre que Smerdiakov, le valet, jeune homme de 24 ans, très taciturne. Non qu'il fût sauvage ou d'une extrême timidité, mais il avait un caractère hautain et paraissait mépriser tout le monde. Tout enfant, il avait témoigné à ses humbles bienfaiteurs une extrême ingratitude, comme le disait Grigori. Son plaisir était de pendre des chats et de les enterrer en grande cérémonie. À cet effet, il se revêtait d'un bras de lit en guise de surplis, et agitait une pierre au bout d'un fil autour du cadavre en guise d'encensoir. Grigori le surprit une fois dans cette occupation et le fouetta rudement. Toute une semaine, l'enfant se tint dans un coin, jetant des regards de haine à ses protecteurs. « Ben, il nous aime pas, » disait Grigori à Marfa, « le gredin. D'ailleurs, il n'aime personne. » « Es-tu un homme, oui ou non ?» lui demandait-il. « Tu es né de la boue de la salle de bain. » Smerdiakov n'avait jamais pardonné ses paroles. Grigori lui apprit à lire et lui donna l'écriture sainte dès sa 12e année. Mais cela réussit mal. Un jour, c'était le 2e ou 3e leçon, le gamin se mit à rire. « Qu'as-tu ?» demanda Grigori en le regardant avec sévérité par-dessus ses lunettes. « Bon, rien. Dieu a créé la lumière le premier jour, et le soleil, la lune, et les étoiles le 4e jour. D'où donc est venue la lumière le premier jour ?» Grigori était stupéfait. Le gamin continuait à regarder son maître d'un air ironique. Il y avait de la provocation dans ce regard. Grigori ne put se retenir. « Voilà d'où !» s'écria-t-il en le souffletant violemment. Le gamin reçut le soufflet sans mot dire, mais se blottit de nouveau dans son coin pour plusieurs jours. Une semaine après, il eut une première crise d'épilepsie, maladie dont dès lors il ne cessa de souffrir. Fiodor Pavlovitch changea aussitôt d'opinion sur le gamin. Jusqu'alors, il le regardait avec indifférence, bien qu'il ne le grondât jamais, qu'il lui donna un copec chaque fois qu'il le rencontrait, et qu'il lui envoya du dessert de sa table quand il était de bonne humeur. Mais à l'occasion de cette maladie, il lui marqua beaucoup plus d'intérêt et fit venir du chef-lieu un médecin. Smerdiakov était incurable. En moyenne, il avait une crise par mois, irrégulière quant à la date, tantôt très forte, tantôt relativement faible. Fiodor Pavlovitch défendit sévèrement à Grigori d'infliger au gamin des châtiments corporels et lui laissa l'accès de sa maison. Il défendit aussi qu'on lui fatigua l'esprit jusqu'à nouvel ordre. Une fois, Smerdiakov avait 15 ans, Fiodor Pavlovitch le surprit dans sa bibliothèque. Il lisait à travers les vitres les titres des ouvrages. Fiodor Pavlovitch possédait une centaine de livres, mais personne ne le vit jamais en ouvrir un seul. Il donna aussitôt la clé de sa bibliothèque à Smerdiakov. « Bon, sois mon bibliothécaire. Assieds-toi et lis. Tiens, commence par ce livre. » C'était les soirées à la campagne, près de Dikhaïnka. Ce livre ne satisfit pas Smerdiakov. Il le referma d'un air morne, sans avoir ri une seule fois. « Eh bien, c'est pas amusant ?» lui demanda Fiodor Pavlovitch. Smerdiakov resta silencieux. « Mais réponds donc, imbécile !»« Mais tout ça, ce sont des mensonges, » dit Smerdiakov. « Va-t'en au diable, homme de laquais !»« Ah, tiens, attends, voici l'histoire universelle de Smaragdov. Ici, tout est vrai. Lis !» Mais Smerdiakov n'en lut pas 10 pages. Cela l'ennuyait. La bibliothèque cessa de l'intéresser. Bientôt, Marfa et Grigori rapportèrent à Fiodor Pavlovitch que, peu à peu, Smerdiakov était devenu très délicat, très dégoûté. Il restait longtemps immobile devant son assiette de soupe, puis pendant une cuillerée, il la regardait à la lumière. « Bien cafard ?» lui demandait Grigori. « Une mouche peut-être ?» ajoutait Marfa. Le jeune homme ne répondait jamais, mais il faisait de même avec le pain, la viande, tous les mets. Fiodor Pavlovitch, apprenant cette nouvelle lubie, décida aussitôt que Smerdiakov avait la vocation de cuisinier et l'envoya étudier cet art à Moscou. Smerdiakov y resta plusieurs années et en revint très changé, comme vieilli, ridé, jaune, semblable à un fantôme. Quant au moral, aussi taciturne qu'avant son départ, mais il était devenu un excellent cuisinier. Fiodor Pavlovitch lui donna des gages que Smerdiakov dépensa en habits, pommades et cosmétiques. Il paraissait mépriser les femmes. Les crises étaient plus fréquentes, ce qui inquiétait fort Fiodor Pavlovitch, d'autant plus que, pendant les indispositions de Smerdiakov, c'était Marfa qui faisait la cuisine. « Tu devrais être marié, Smerdiakov, lui disait-il. Veux-tu, je vais te marier, hein ?» Mais Smerdiakov ne répondait rien, et venait même de dépit. Il était d'ailleurs d'une scrupuleuse honnêteté. Par exemple, un jour, Fedor Pavlovitch, étant ivre, perdit dans sa cour 300 roubles qu'il venait de recevoir et ne s'en aperçut que le lendemain, en les voyant sur sa table. Sverdiakov les avait trouvés et apportés la veille. « Je n'ai jamais vu ton pareil, lui dit Fedor Pavlovitch. » Et il lui donna 10 roubles. Un physionomiste n'aurait rien pu lire sur le visage de Smerdiakov. Aucune pensée, du moins, mais seulement une sorte de rêverie. Le peintre Kramsky a fait un remarquable tableau, Le Rêveur. C'est une forêt en hiver au milieu de laquelle se tient un petit moudjik vêtu d'un caftan déchiré, chaussé de lapti. Il semble réfléchir, mais il ne réfléchit pas, il est perdu dans un rêve vague. Si on le touchait, il tressauterait et regarderait sans comprendre, comme un homme qui s'éveille. Bon, il reviendrait probablement bien vite à lui, mais si on lui demandait quel était son rêve, il ne saurait le dire en se souvenant de rien. Pourtant, il garde de cette sorte d'engourdissement une impression profonde qui lui est chère, et elle s'accumule en lui, ces inconscientes impressions. Dans quel but, il ne le sait. Mais un jour, peut-être, après une année de telle rêverie, il quittera tout et s'en ira à Jérusalem faire son salut, ou bien il incendiera son propre village. Ou encore fera-t-il d'abord le crime et puis le pèlerinage? Il y a beaucoup de semblables types dans notre peuple. Sverdiakov était d'un des plus caractérisés. Chose étrange, Fiodor Pavlovitch, si gai d'abord, s'assombrit tout à coup. Il vida un verre de cognac. « Allez-vous-en » cria-t-il au domestique. « Hors d'ici, Sverdiakov! Ce gamin ne nous quitte plus. C'est probablement toi qui l'intéresse, continua-t-il en s'adressant à Ivan. Que lui as-tu donc fait? Bon, rien, c'est une fantaisie qu'il a. Ah, c'est que l'âme de Balaam pense, à perte de vue. Et Dieu sait où ses pensées peuvent le mener. Il ne peut pas me souffrir, ni toi, ni Alyosha. Il nous méprise tous, mais il est si bon cuisinier, si honnête. » Et Fiodor Pavlovitch se versa tout sur coup plusieurs petits verres. « Vous en prenez trop, » risqua timidement Alyosha. « Attends, et encore un, puis encore un, et c'est tout. Dis donc, Alyosha, est-ce que je suis décidément qu'un bouffon ? » ?»« Non, je sais que vous n'êtes pas un bouffon. » »« Ben, je te crois sincère. Ivan, lui, ne l'est pas, c'est un orgueilleux. »« Ah, ça, je voudrais bien en finir avec ton monastère. Il faudrait délivrer la terre russe de toute la gente mystique. Que d'or elle enlève à la monnaie ! » « Confisquer les biens des monastères ?» demanda Ivan. « Pourquoi ?»« Ben pour hâter l'avènement de la vérité. »« Mais c'est vous, tout le premier, que déposséderait l'avènement de la vérité. »« Ben, soit, ben, tu as peut-être raison. »« Quel âne je suis !» s'écria Fiodor Pavlovitch en se frappant le front. Bon diable, je laisse désormais ton monastère tranquille, Alyosha. Nous autres gens d'esprit restons au chaud et buvons du cognac. Dieu a bien fait les choses, Ivan, dis-moi. Existe-t-il ce Dieu-là, oui ou non? Attends, mais parle-moi sérieusement. Oh non, il n'y a pas de Dieu. Alyosha, Dieu existe-t-il? Oui, il existe. Ivan, y a-t-il une immortalité? Oh mais, une toute petite immortalité, la plus petite possible. Oh non, pas plus d'immortalité que de Dieu. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire un zéro absolu ou une petite fraction d'unité? N'y aurait-il pas une fraction de fraction? Oh non, zéro absolu. Alyosha, y a-t-il une immortalité? Oui. Tu crois donc en Dieu et en l'immortalité? Oui, c'est en Dieu que se fonde l'immortalité. Bon, je crois que c'est Ivan qui a raison. Dieu de Dieu, quand on pense à tout ce que l'homme a gaspillé d'énergie en de chimériques croyances depuis tant de milliers d'années. Mais qui donc s'amuse alors, Ivan, à tourner ainsi en dérision l'humanité? Le diable, probablement, ricana Ivan. Y a-t-il donc un diable? Eh non. Tant pis, ce serait pas assez de prendre le fou qui a le premier imaginé Dieu. Ben oui, sans cette imagination, il n'y aurait pas de civilisation. Comment cela? Et il n'y aurait pas de cognac non plus, oui, de ce bon cognac, je suis obligé de vous enlever. Attends, encore un petit verre. Oh, j'ai offensé Alyosha. Tu m'en veux pas, Alexei, mon cher petit? Non, je vous connais, votre cœur vaut mieux que votre tête. Mon cœur vaut mieux que ma tête? Et c'est toi qui dis cela? Ivan, tu aimes Alyosha? Oui, je l'aime. Tu as raison. Et les vapeurs de l'ivresse lui montaient au cerveau. Alyosha, j'étais grossier tout à l'heure avec ton starets. J'étais si surexcité. C'est un homme d'esprit, ce starets. Qu'en penses-tu, Ivan? Oui, peut-être. Oui, certainement, il y a du piron là-dedans. C'est un jésuite, je veux dire un jésuite russe. Il s'indigne intérieurement d'être obligé de jouer la comédie, d'être obligé d'endosser un vêtement de sainteté. Mais il croit en Dieu. Pas pour un copec. Tu ne l'as pas compris. Il le laisse entendre à tout le monde, au moins à tous ceux qui savent ce que parler veut dire. Il a dit textuellement au gouverneur Schulz cette phrase. Credo, mais je ne sais en quoi. Vraiment? C'est comme je te le dis, je l'estime. Il a quelque chose de Méphistophélès ou bien du héros de notre temps. Arbenin, oh, comment s'appelle-t-il? C'est un sensuel, crois-moi. Et à tel point que je ne lui confierais pas volontiers, même maintenant, une fille ou ma femme. Quand il commence à raconter, oh, si tu savais. Il y a 3 ans, il nous invita à prendre chez lui du thé et des liqueurs, car ces dames lui envoient des liqueurs. Il se mit à nous raconter sur l'ancien temps. On se tordait. Je me rappelle surtout comment il guérit une dame. « Si j'avais pas mal aux jambes, nous dit-il, je vous danserai une certaine danse. Qu'en dites-vous? J'ai fait la danse, moi aussi, ajouta-t-il. Il a volé un négociant, des mines d'or, 60 000 roubles. Comment voler? Ben, l'autre les lui avait confiés, comme à un honnête homme, pour 24 heures. Et le vieux a tout gardé. Tu les as donnés pour l'Église, a-t-il répondu. Ah non, je me trompe, alors l'histoire est d'un autre. Oh, j'y suis plus. Allez, encore un petit verre et c'est fini. Prends la bouteille, Ivan. Pourquoi ne m'as-tu pas empêché de mentir? Je pensais que vous vous arrêteriez de vous-même. Bon, c'est faux. C'est par méchanceté que tu m'as laissé dire. Tu me méprises, n'est-ce pas? Tu es venu pour me montrer combien tu me méprises. Eh bien, je m'en irai demain. Je crois que le cognac commence à vous impressionner. L'ivresse de Fyodor Pavlovitch, en effet, s'accentuait. Que tu me regardes ainsi? Tes yeux me disent, tu es saoul. Il y a de la méfiance, du mépris dans tes yeux. Vois comme cela Alyosha, son serein. Il n'y a pas de mépris, lui, dans ses yeux. Alexei, n'aime pas Ivan. Mais cessez d'offenser mon frère, dit tout à coup Alyosha d'un ton décidé. Soit, oui, mal à la tête. Oh, que j'ai mal. Allez, pour la troisième fois, je te dis, Ivan, d'enlever le cognac. Il resta rêveur et soudain se mit à rire. Ne te fâche pas, Ivan. Tu me hais, je le sais. Mais ne te fâche pas. Ne me mérite pas qu'on m'aime. Je t'enverrai faire un petit voyage et puis j'irai te chercher. Oh, je connais pas loin de la ville où tu iras une fillette. Elle va pieds nus, mais il faut pas dédaigner les pieds nus. Il y a souvent des trésors dans les fossés. Il baisa bruyamment le bout de ses doigts. Pour moi, reprit-il avec une animation subite, comme s'il entamait un thème favori. Pour moi, mes enfants, mes petits cochons. Pour moi, j'ai jamais cru aux femmes laides. C'est mon credo, comprenez-vous? Non, vous ne pouvez pas comprendre, vos veines sont encore pleines de lait. Vous n'avez pas complètement brisé votre coquille. Il y a, selon moi, dans chaque femme, quelque chose de spécial, qu'on ne retrouve en aucune autre, mais est-ce quelque chose? Il faut savoir le trouver. C'est un talent. Le fait seul du sexe est déjà beaucoup. Même les vieilles filles ont des qualités qui font qu'on s'étonne de la sottise des gens qui ont laissé ces pauvres créatures vieillir inutilement. Voilà une vagabonde. Comment commencer avec elle? Il faut l'étonner. Savez-vous cela? Il faut la mettre au point qu'elle soit à la fois transportée de joie et de honte. C'est facile, une fille comme elle, avoir attiré le regard d'un marine. Alyosha, j'ai étonné aussi ta défunte mère, mais autrement. Jamais je ne l'avais caressée, et tout à coup, je tombe à genoux devant elle. Je lui baise les pieds, et peu à peu, je la mène à se rire sans éclat. Qui lui était particulier à un rire nerveux. Celui-là, elle seule l'avait. Je savais que c'était un symptôme de maladie, et que le lendemain, la cliquelouchla aurait une crise. N'importe, c'était un simulacre de passion, de joie, et c'était toujours cela. Voilà comme on trouve quand on sait chercher. Un jour, un certain Bielavski, un bel âtre qui lui faisait la cour, me souffleta devant elle. Oh, je crus qu'elle m'assommerait. « Mais il t'a battu, me disait-elle, il t'a giflé. Tu me vendais à lui. Comment, devant moi? Il a osé te souffleter devant moi. Allez, n'aie pas l'audace de reparaître à jamais à mes yeux, et cours le provoquer en duel. » Venu l'amener au monastère, pour qu'on fît des prières sur elle, afin de la calmer. Mon Dieu, mes témoins, Alyosha, que je l'ai jamais offensée, ma petite Kiklouchka. Une fois seulement, pendant la première année de notre mariage. Elle priait trop et m'avait interdit l'entrée de sa chambre. Oh, je me mis en tête de lui faire rabattre de son mysticisme. « Vois-tu cette icône ?» lui dis-je. « Je l'enlève, cette icône que tu considères comme miraculeuse. Mais je vais cracher dessus et je ne serai pas puni pour cela. Dieu, elle va me tuer, pensais-je. » Non, elle se leva seulement, joignit les mains, cacha son visage, fut prise d'un tremblement et tomba par terre toute roide. « Alyosha, Alyosha, qu'as-tu, qu'as-tu ?» Depuis qu'on parlait de sa mère, Alyosha changeait de couleur. Tout à coup, il rougit. Ses yeux étincelèrent, ses lèvres tremblèrent. Le vieil ivrogne ne s'aperçut de rien. Alyosha vit la scène même que Fédor Pavlovitch venait de raconter. Le jeune homme se leva, joignit les mains, puis s'en couvrit le visage, et tomba sur une chaise, frémissant des pieds à la tête, comme dans une crise d'hystérie, et fondit en larmes. Cette ressemblance extraordinaire de l'enfant et de la mère épouvanta Fiodor Pavlovitch. « Ivan, Ivan, donne-lui de l'eau !» « C'est comme elle, tout à fait comme elle. Jette-lui de l'eau au visage, comme je faisais avec elle. Mais c'est sa mère, c'est sa mère. Ben, »« Et la mienne aussi, je pense. Sa mère était ma mère, qu'en dites-vous » fit brusquement Ivan d'un ton de mépris indicible. Le vieux tressaillit sous le regard fulgurant de son fils. « Comment ta mère ? » dit-il sans comprendre. « De quelle mère parles-tu ? Est-ce qu'elle... »« Oh, ben, diable, oui, c'est vrai. C'était ta mère aussi. Oh, 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 pardon, j'étais troublé, je pensais... » Il s'arrêta et se mit à rire. Tout à coup, un bruit imprévu retentit dans le vestibule. Des cris désespérés se firent entendre. La porte s'ouvrit avec fracas et Dmitri Fiodorovitch apparut. Le vieillard épouvanté se jeta du côté d'Ivan. « Il va me tuer, il va me tuer, défends-moi » cria-t-il en saisissant les bas de la redingote d'Ivan Fiodorovitch. Derrière Dmitri accourait Grigori Smerdiakov. Il s'était d'abord efforcé de l'empêcher d'entrer, comme Fiodor Pavlovitch en avait depuis longtemps donné la consigne. Profitant de ce que Dmitri s'arrêtait un instant pour regarder autour de lui, Grigori tourna de l'autre côté de la table, ferma la porte en face qui menait aux autres chambres de Fiodor Pavlovitch et se mit devant la porte fermée, les bras en croix, prête à défendre l'entrée jusqu'à la dernière goutte de son sang. Dmitri poussa un cri perçant et se jeta sur Grigori. « Elle est là, alors ! On l'a cachée là ! Hors de là, misérable !» Il tira Grigori, qui le repoussa. Ne se possédant plus, Dmitri le souffleta de toutes ses forces. Le vieux tomba comme assommé. Dmitri le franchit et ouvrit la porte. Smerdiakov se tenait à l'autre extrémité du salon et se serrait contre Fiodor Pavlovitch. « Elle est ici !» cria Dmitri Fiodorovitch. « Je l'ai vue se diriger vers la maison, mais j'ai pu l'atteindre. Où est-elle ? Où est-elle ?» Le cri « Elle est ici !» rendit à Fiodor Pavlovitch tout son courage. « Arrête-le, arrête-le » cria-t-il, et il se mit à poursuivre Dmitri. Grigori se leva, mais il était comme assourdi. Ivan et Alyosha suivirent leur frère. On entendit dans la chambre voisine quelque chose se briser en tombant. C'était un grand vase en verre, ou sans valeur, qui était sur un piédestal de marbre, et que Dimitri avait renversé en passant. « Attrape-le !» vociférait le vieux. « Au secours !» Ivan et Alyosha rejoignirent Fiodor. Pavlovitch et le ramenèrent de force dans le salon. « Mais pourquoi lui courez-vous après? Il pourrait en effet vous tuer !» criait avec colère Ivan Fiodorovitch. « Vanejka, Lyoshelchka! Elle est donc ici, Glushelchka? Elle est ici! Il l'a vu lui-même, il l'a vu venir !» Il suffoquait. Il n'attendait pas Glushelchka, et la pensée qu'elle pouvait être chez lui l'affolait. « Mais vous savez vous-même qu'elle n'est pas venue. Ben, peut-être aura-t-elle pris l'autre entrée. Mais l'autre entrée est fermée, vous avez la clé. » Tout à coup, Dmitri apparut de nouveau. Il avait trouvé l'autre entrée fermée. La clé était en effet dans la poche de Fiodor Pavlovitch. Toutes les fenêtres aussi étaient closes. Nulle entrée donc par où Grushenchka eût pu pénétrer. Arrête-le, glapit Fiodor Pavlovitch. Il a volé mon argent dans ma chambre à coucher. Et s'arrachant des bras d'Ivan, il se jeta sur Dmitri. Mais celui-ci leva les mains et saisissant le vieillard par le peu de cheveux qui lui restait, le tira violemment, le jeta par terre. Il lui asséna en plein visage 3 coups de botte. Le vieillard gémit. Ivan Fiodorovitch saisit Dmitri par derrière et le souleva du sol. Alyosha l'aidait de toutes ses forces. « Fou, mais tu l'as tué !»« Tant mieux, si c'est pas encore fait, je reviendrai. »« Dmitri, sors d'ici !» cria impérieusement Alyosha. « Alexei, je crois avec toi. » Est-elle ici? Je l'ai vue se faufiler dans la ruelle. Je l'ai appelée, elle s'est sauvée. Je te jure qu'elle n'est pas venue ici et que personne ne l'attendait. Mais je l'ai vue, donc elle... Je veux savoir tout de suite où elle est. Adieu, Alyosha. Pas un mot à Ésope à propos de l'argent. Va chez Katerina Ivanovna et dis-lui... « Il m'a ordonné de vous saluer, et précisément de vous saluer et de vous resaluer, et d'écrire-lui cette scène. » Cependant, Ivan et Grigori avaient relevé le vieux et l'avaient étendu sur un divan. Son visage était ensanglanté, mais toute sa présence d'esprit lui restait, et il écoutait avec une extrême attention les exclamations de Dmitri. Il était convaincu que Grushenchka se tenait caché quelque part chez lui. Dmitri Fiodorovitch, avant de partir, lui jeta un regard de haine. « Je ne me reprends de rien. Prends garde, vieux, je te maudis, et je te renie à jamais. » Il sortit à grands pas. « Elle est ici, elle est sûrement ici. Smerdiakov, Smerdiakov !» bredouillait Fiodor Pavlovitch. Non, elle n'est pas ici, non, vieillard insensé, fit avec rage Ivan exaspéré. Bon, voilà qu'il s'évanouit. Les deux lots des linges. Alors, remis-toi, Smerdiakov. Smerdiakov courut chercher le lot. On déshabilla le blessé, on le porta dans sa chambre à coucher, et on l'étendit sur un lit. Sa tête fut entourée de serviettes mouillées. Affaibli par l'ivresse, l'émotion et les coups, il s'assoupit aussitôt qu'il eut touché l'oreiller. Ivan et Alyosha retournèrent au salon. Smerdiakov emporta les verres cassés, et Grigori restait près de la table, pensif, accablé. « Il faut aussi te mouiller la tête et te coucher, » dit Alyosha à Grigori. « Nous le garderons. Mon frère t'a blessé, grièvement peut-être. Il a osé, dit Grigory d'une voix profonde. Mais il a osé à son père aussi, dit Ivan. Mais je le lavais dans sa petite baignoire quand il était enfant. Il a osé, répétait Grigory. Diable, sans moi, il l'aurait tué. Il n'en faut pas beaucoup pour Ésope, dit tout bas Ivan à Alyosha. Que Dieu le sauve, fit Alyosha. Et pourquoi le sauver ? Continua Ivan à voix basse, le visage bouleversé par la haine. Que les reptiles se dévorent entre eux, ce sera bien. Alyosha tressaillit. Oh, certes, je ne laisserai pas accomplir un crime. Je l'en ai empêché tout à l'heure. Allez, reste ici, Alyosha. Je vais dans la cour. J'ai mal à la tête. Alyosha alla chez son père et s'assit à son chevet pendant près d'une heure. Le vieux ouvrit tout à coup les yeux et longtemps regarda Alyosha sans parler, s'efforçant évidemment de rassembler ses souvenirs. Une émotion extraordinaire se peignait sur son visage. Alyosha, dit-il à voix basse, où est Ivan ?
Dans la cour, il a mal à la tête. Il veille sur nous.
Donne-moi la petite glace, là. Alyosha lui donna une petite glace qui se trouvait sur la commode. Le vieux se regarda et vit son nez très enflé et sur son front, au-dessus du sourcil gauche, une grande tache de sang caillé. « Que dit Ivan ?»«
Alyosha, mon cher, mon fils unique, j'ai peur d'Ivan. Je le crains plus que l'autre. Il n'y a que toi que je ne craigne pas. »«
Mais ne craignez pas Ivan non plus. Il se fâche, mais il vous défend. »«
Alyosha, et l'autre, il a couru chez Grushenka ?»« Mon cher ange, dis-moi la vérité. » « Était-elle ici tout à l'heure ?»«
Oui, mais personne ne l'a vue, c'est une illusion, elle n'y était pas. »«
Tu sais, Mitya veut l'épouser. »«
Oh, elle n'en voudra pas. »«
Elle n'en voudra pas, elle n'en voudra pas, elle n'en voudra pas !» s'écria le vieux exultant de joie.
On ne pouvait rien lui dire qui lui fût aussi agréable. Il saisit avec transport la main d'Alyosha et la pressa fortement contre son cœur. Des larmes jaillirent de ses yeux.
Prends la petite icône de la Vierge dont je t'ai parlé. Prends-la et emporte-la avec toi. Allez, je te permets même de retourner au monastère. Tu sais, je plaisantais à ce propos. Sois pas fâché. J'ai mal à la tête, Alyosha. « Écoute, Alyosha, tranquillise-moi. Sois mon bon ange. Dis-moi la vérité. »
« Toujours la même chose, si elle est venue ou non, » dit tristement Alyosha.
« Non, je te crois, mais va toi-même chez Grushenka et demande-lui au plus tôt.
Et puis là, du regard, devine sa pensée secrète.
Qui elle préfère, moi ou lui ? Peux-tu, veux-tu ?
Si je la vois, je lui demanderai, murmura Alyosha, embarrassé.
Mais elle ne te parlera pas franchement, reprit le vieux. C'est un serpent. Elle t'embrassera et dira que c'est toi qu'elle préfère. C'est une fausse, une vile créature. Allez, non, ne va pas chez elle, il faut pas.
Ce serait en effet pas bien, mon père, pas bien du tout.
Où t'envoyait-il tout à l'heure quand il s'est sauvé ?
Chez Katerina Ivanovna.
Pour lui demander de l'argent ?
Non.
Il n'a pas d'argent, pas un copec. Et à ce propos, je... Alyosha, je passerai la nuit à réfléchir. Va-t'en, tu la rencontreras peut-être. Viens chez moi demain matin. J'ai un mot à te dire. Viendras-tu ?
Je viendrai.
Tu feras comme si tu venais prendre de mes nouvelles. Ne dis pas que je t'ai appelé. Pas un mot à Ivan.
C'est bien.
Adieu, mon ange. Tout à l'heure, tu m'as défendu, j'oublierai jamais. Je te dirai quelque chose demain, mais il faut que j'y réfléchisse.
Comment vous sentez-vous maintenant ?
Bon, demain, dès demain, je me lèverai, je marcherai. Oh, je suis tout à fait rétabli.
En sortant, Alyosha aperçut Ivan assis sur un banc près de la porte cochère. Il écrivait sur son carnet. Alyosha lui dit que Fiodor Pavlovitch avait repris connaissance et qu'il l'envoyait passer la nuit au monastère.
Alyosha, je désire beaucoup te voir demain matin, dit Ivan d'un ton affectueux, si affectueux qu'Alyosha en fut surpris.
Demain, je vais chez les Khorklaklov et peut-être aussi chez Katerina Ivanovna, si je ne la trouve pas chez elle maintenant.
Tu vas donc chez elle. C'est pour la saluer, dit Ivan en souriant.
Alyosha resta confus.
Je crois avoir compris les exclamations de Dmitri. Il t'a prié d'aller chez elle, lui dire de... en un mot d'en finir.
Mes frères, qu'adviendra-t-il de tout cela ?
C'est difficile à dire. Cette femme est une bête fauve. Il faut empêcher le vieux de sortir et Dmitri d'entrer.
Frère, permets-moi encore de te demander si un homme a le droit de juger ses semblables et de décider qui mérite de vivre et qui mérite de mourir.
Pourquoi cette philosophie ? Les qualités respectives des individus ne sont pas ce qui importe dans une telle question. Quant au droit, qui n'a pas le droit de désirer ?
Désirer la mort d'autrui ?
Même la mort, pourquoi mentir ? Ah, tu fais allusion à mes paroles de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Me crois-tu comme Dmitri capable de verser le sang d'Ésope, oui, de le tuer ?
Bon, que dis-tu, Ivan ? Jamais cette pensée ne m'est venue. Je ne l'aurais pas cru Dmitri lui-même capable.
Merci, dit Ivan en souriant. Sache que je défendrai toujours le vieux. Quant à mes désirs, je leur laisse toute liberté. Allez, à demain, ne me juge pas mal. Ne me prends pas pour un scélérat.
Ils se serrèrent les mains plus vivement qu'ils n'avaient jamais fait.
Alyosha comprit que son frère lui faisait des avances non sans intention.
Alyosha emportait de chez son père une étrange fatigue de corps et d'esprit. Un sentiment très voisin du désespoir, et pour lui bien nouveau, l'accablait. Et cette préoccupation primait toutes les autres. Comment cela finirait-il entre son père et son frère Dmitri à propos de cette terrible femme ? Il sentait que des deux, le plus malheureux était Dmitri. 7 heures sonnaient. Alyosha ne parvint pas avant la tombée du crépuscule à la maison de Katerina Ivanovna, une grande et confortable maison sur la rue principale. Il savait qu'elle vivait avec ses 2 tantes. L'une était la sœur de la mère d'Agafia Ivanovna, que nous connaissons déjà, et l'autre une grande dame de Moscou, peu fortunée. Les 2 dames passaient pour obéir en tout aux volontés de Katerina Ivanovna, avec qui elle ne vivait que pour sauvegarder les convenances. La jeune fille ne rendait compte de sa vie qu'à sa bienfaitrice, la générale, retenue à Moscou par sa mauvaise santé. Katerina Ivanovna lui écrivait deux fois par semaine des lettres détaillées. En entrant dans le vestibule et en disant son nom à la domestique, Alyosha crut remarquer qu'on l'attendait déjà. Peut-être l'avait-on vu à travers les vitres. Il entendit un bruit de pas féminin, un froissement de robe, comme si deux ou trois femmes se retiraient précipitamment dans une chambre voisine. Il s'étonna que son arrivée produisit tant d'émotion. On l'introduisit dans le salon, une grande pièce élégamment et abondamment meublée, à la mode pétersbourgeoise. Beaucoup de divans, de chaises longues, de grandes et de petites tables, de tableaux, de vases, de lampes et de fleurs. Il y avait même un aquarium près d'une fenêtre. Alyosha aperçut dans le demi-jour, sur un divan qui était sans doute occupé avant son arrivée, une mantille de soie, et sur une table, devant le divan, deux tasses de chocolat non achevées, des biscuits, du Malaga et des bonbons. Il pensa qu'il y avait des invités et fronça le sourcil. Une portière se leva. Katerina Ivanovna entra d'un pas précipité et avec un sourire joyeux tendit ses deux mains à Alyosha. En même temps, une servante apporta deux bougies allumées. « Ah, enfin vous voilà. J'ai passé toute la journée à prier Dieu qu'il vous fît venir. Asseyez-vous. » La beauté de Katerina Ivanovna avait déjà étonné Alyosha trois semaines auparavant, quand son frère Dmitri l'avait menée chez elle pour la lui présenter, car elle avait désiré le connaître. Il n'avait pas causé. Katerina Ivanovna crut Alyosha timide, et pour le mettre à l'aise, ne cessa de parler avec Dmitri. Mais Alyosha l'avait beaucoup observé. Il admirait le port majestueux et l'aisance fière de cette jeune fille. Il trouvait ses grands yeux brillants en parfaite harmonie avec cette pâleur chaude du visage parfaitement ovale. Mais il pensait que ses lèvres charmantes pouvait très bien ne pas retenir longtemps l'amour, quoiqu'il comprît à merveille qu'on s'éprit d'elle. Quand Dmitri lui demanda son opinion, Alyosha ne lui cacha pas cette pensée. « Tu seras heureux avec elle, mais peut-être pas d'un bonheur tranquille. »« Frère, ces femmes-là restent toujours semblables à elles-mêmes. Elles ne plient pas devant la destinée. » « Pourquoi donc veux-tu croire que je ne l'aimerai pas toujours ?»« Oui, tu l'aimeras toujours, sans doute. Du moins, enfin, c'est possible. Mais peut-être, néanmoins, ne seras-tu pas toujours heureux avec elle ?» Alyosha avait exprimé cette opinion qu'en rougissant, et avec le dépit d'avoir, pour céder aux prières de son frère, laissé voir des pensées aussi sottes. Car aussitôt qu'il les avait dites, il les avait lui-même jugées sottes. D'autant plus fut-il étonné quand, dès le premier regard qu'il jeta lors de cette seconde entrevue sur Katerina Ivanovna, il eut la conviction soudaine qu'il s'était trompé dans son premier jugement. Le visage de la jeune fille rayonnait autant de sincérité et d'ardeur que de beauté. Tout son être ne respirait qu'une noble énergie fondée sur une inébranlable confiance en elle-même. Alyosha comprit aussitôt qu'elle avait confiance de la tragédie où elle était mêlée et que peut-être elle savait déjà tout. Il se sentait devant elle comme coupable, vaincu et séduit à la fois. « Je vous attendais, » commença-t-elle, « car c'est de vous seul désormais que je puis savoir toute la vérité. » Elle était en proie à une agitation extraordinaire, voisine de l'exaltation. « Je suis venu, » murmura Alyosha d'une voix entrecoupée. « Il m'a envoyé. »« Ah, il vous a envoyé. » »« Oh, je le pressentais. » »« Maintenant, je sais tout, tout, » dit Katerina Ivanovna, ses yeux jetaient des éclairs. « Attendez, Alexei Fyodorovitch, je vais vous dire pourquoi je désirais vous voir. J'en sais peut-être plus que vous-même. Ce ne sont pas des nouvelles que j'espère de vous. Je veux savoir la dernière impression qu'il a produite sur vous. Je veux que vous me racontiez le plus franchement, le plus grossièrement même que vous pourrez, ce que vous pensez de lui maintenant, après votre dernière rencontre. Cela vaudra mieux qu'une explication entre lui-même et moi, puisqu'il ne veut plus me voir. Comprenez-vous ce que je vous demande? Maintenant, allez, dites-moi pourquoi il vous a envoyé. Parlez sans détour.
Il m'a chargé de vous saluer et de vous dire qu'il ne viendra plus jamais et de vous saluer.
Saluer? Il a dit ce mot? C'est ainsi qu'il s'est exprimé?
Oui.
Mais peut-être a-t-il dit un mot pour un autre? Non, non, il a insisté pour que je vous dise ce propre mot, saluer. Trois fois de suite, il m'a recommandé de ne pas oublier de vous dire ce mot même.
Le visage de Katerina Ivanovna s'empourpra.
Aidez-moi, Alexis Fyodorovitch, j'ai absolument besoin de vous. Voici ce que je pense, dites-moi si j'ai tort. S'il vous avait dit de me saluer, sans insister sur la transmission exacte du mot, sans le souligner, mais tout serait fini. Mais s'il a appuyé sur ce mot particulièrement, s'il vous a donné mission de me transmettre ce « salut », c'est qu'il était très exalté, hors de lui, peut-être. Il aura pris un parti extrême, dont il s'effrayait lui-même. Ce n'est pas de sang-froid qu'il a renoncé à moi. Il lui a fallu faire un violent effort. Le fait d'avoir tant souligné ce mot a le sens d'une bravade.
« Mais c'est cela, approuva Alyosha, avec chaleur. Je pense tout à fait comme vous.
Eh bien, s'il en est ainsi, il n'est pas encore perdu. Ce n'est que du désespoir. Je puis le sauver. Ne vous a-t-il pas parlé d'argent, de 3 000 roubles ?»«
Oui, certes, et c'est peut-être ce qui l'obsède le plus. »
Il dit qu'il est perdu d'honneur et que tout lui est égal désormais, répondit Alyosha, qui sentait l'espérance lui revenir et entrevoyait déjà une issue dans la situation affreuse de son frère. Mais est-ce que vous savez tout à propos de cet argent?
Depuis longtemps, j'ai télégraphié à Moscou et je sais que l'argent n'y est pas parvenu. La semaine dernière, j'ai appris que Dmitri avait encore besoin d'argent. Le seul but auquel je tende est de lui faire comprendre quelle est pour lui l'amitié la plus sûre. Il ne veut pas comprendre que c'est moi qui suis son meilleur ami. Il ne voit que la femme en moi. Mais comment faire pour qu'il puisse me dire sans honte qu'il a dépensé ses 3 000 roubles ? Car cette honte, il peut l'avoir pour tous, pour lui-même, mais pour moi. Il dit bien tout à Dieu sans rougir. Et pourquoi me méconnaît-il? Comment ose-t-il me méconnaître après tout ce qui est arrivé? Je veux le sauver. S'il le faut qu'il cesse de me considérer comme sa fiancée, Comment, il a honte devant moi? Mais a-t-il eu honte devant vous, Alexei Fiodorovitch? Et n'ai-je donc pas encore mérité sa confiance?
Elle prononça ces derniers mots en pleurant.
Je dois vous communiquer, dit Alyosha d'une voix tremblante, ce qui vient d'arriver chez mon père. Et il lui raconta la scène. Comment il avait été envoyé par Dmitri chez son père pour demander l'argent. Comment Dmitri était arrivé lui-même et avait assommé Fiodor Pavlovitch. Et comment, là-dessus, il lui avait, à lui, Alyosha, recommandé une dernière fois d'aller saluer.
Et il est allé chez cette femme, ajouta doucement Alyosha.
Vous pensez que je pourrais me faire à l'idée qu'il voit cette femme? Il le pense aussi, mais il ne l'épousera pas, dit-elle tout à coup avec un rire nerveux. Est-ce qu'un Karamazov peut être éternellement en proie à un tel entraînement? Car c'est de l'entraînement, ce n'est pas de l'amour. Il ne l'épousera pas, elle ne voudra pas de lui, fit-elle avec un rire étrange.
Il l'épousera peut-être, dit tristement Alyosha en baissant les yeux.
Il ne l'épousera pas, vous dis-je. Cette jeune fille est un ange. Le saviez-vous? Le saviez-vous? S'écria-t-elle avec une fougue extraordinaire. C'est un être miraculeux.
Certes, elle est séduisante, mais son âme est plus belle encore que sa figure.
Pourquoi me regardez-vous ainsi, Alexei Fiodorovitch? Je vous étonne? Vous ne me croyez pas?
Agrafiana Alexandrovna, mon ange, s'écria-t-elle tout à coup dans la direction de la porte voisine.
Venez donc ici. Ce charmant garçon est au courant de tout. Montrez-vous donc.
Je n'attendais que votre appel, dit une voix douce. Doucereuse plutôt. La portière se souleva, et Grushenka elle-même, en riant, toute joyeuse, s'approcha de la table. Alyosha eut une sorte de frisson. Il la regarda fixement, il ne pouvait se détourner d'elle.
La voilà, cette terrible femme, cette bête fauve, comme avait dit Ivan.
Au premier abord, pourtant, c'était l'être le plus ordinaire. Dmitri ne s'était pas trompé.
Le plus simple, une femme charmante et bonne. Jolie, soit, mais pareille à toutes les jolies femmes ordinaires.
Elle était plus que jolie, il est vrai, très belle. Une beauté russe de celles qui font tant de passion. Assez haute de taille, un peu moins grande pourtant que Catalina Ivanovna. Celle-ci était d'ailleurs d'une taille peu commune. Forte, avec des gestes élastiques et doux, comme alanguie dans une douceur harmonisée avec celle de sa voix. Elle s'avança, non pas comme avait fait Catalina Ivanovna, d'un pas ferme et puissant, mais sans bruit. Elle s'affaissa mollement dans un fauteuil, fit doucement bruire sa belle robe de soie noire et couvrit d'un châle avec une mine de chatte frileuse son cou blanc comme l'écume et ses larges épaules. Elle avait 22 ans et son visage attestait juste cet âge. La peau était très blanche avec des reflets rose pâle dans le teint. L'ovale du visage un peu large, la mâchoire inférieure un peu saillante, la lèvre supérieure était mince, l'autre deux fois plus épaisse, presque enflée, une magnifique chevelure châtain, très abondante, des sourcils noirs, de superbes yeux gris d'azur, de très longs cils. Oh, le plus indifférent des hommes, perdu dans la foule, se fut arrêté nécessairement devant ce visage pour ne pas l'oublier de longtemps. Alyosha s'étonnait surtout de l'enfantine naïveté de la physionomie. Elle avait des regards, des sourires d'enfant. Sous ses ondoiements félins, on sentait un corps puissant et gras. Son châle dessinait des épaules pleines et une forte poitrine de toute jeune femme. Des experts parmi les amateurs de la beauté russe auraient toutefois prédit, en regardant Grushenka, que cette beauté, si fraîche encore, perdrait aux environs de la trentaine son harmonie, s'épaissirait, que les traits se fondraient, que la peau du front et des paupières s'écailleraient de rides, deviendraient rêches, que le teint s'altérerait. En un mot, c'était un type accompli de cette beauté trop brève, si fréquente chez nous. Alyosha restait comme fasciné. Mais pourquoi traitait-elle tant les syllabes? Pourquoi parlait-elle avec tant d'affectation? Ce grasseillement devait paraître aristocratique à Grushenka. Quelques mauvaises habitudes qui sentaient son origine populacière. Pourtant, Alyosha ne pouvait concilier ce manque de naturel avec cette expression de gaieté puérile de toute la physionomie, cet éclat des yeux où riait une joie de bébé. Katerina Ivanovna l'avait fait asseoir en face d'Alyosha et l'avait embrassé à plusieurs reprises sur les lèvres. Nous nous voyons pour la première fois, Alexei Fyodorovitch, dit-elle joyeusement. Je voulais la connaître, aller chez elle, mais elle est venue elle-même au premier appel. Je prévoyais que nous nous entendrions en tout, mon cœur me le disait. On m'avait conseillé de ne pas faire cette démarche, mais j'en augurais bien, je ne suis pas trompé. Grushenska m'a expliqué ses intentions. Elle est venue comme un bon ange, m'apporter la joie et le bonheur. Et vous ne m'avez pas méprisé, ma chère Varishnia, chanta plutôt que ne parla Grushenka avec son sempiternel sourire. Taisez-vous, enchanteresse, magicienne que vous êtes. « Vous méprisez. Mais je vais vous embrasser encore sur votre jolie lèvre pour vous punir. On dirait qu'elle est un peu enflée. Eh bien, je vais la faire enfler encore davantage. Alexei Fyodorovitch, regardez-la rire, mais cela épanouit le cœur. » Alyosha rougissait et frissonnait. Oh, « vous me gâtez, chère Varishnia, je ne suis pas digne de vos caresses. »« Pas digne, pas digne !» s'écria Katerina Ivanovna avec exaltation. « Sachez, Alexei Fyodorovitch, que nous avons la tête très fantasque, très indépendante, et le cœur très fier, oh, très fier. Nous avons des sentiments nobles, Alexei Fyodorovitch, de généreux sentiments, saviez-vous cela ?» Nous étions seulement tristes, tout près de nous sacrifier, pour un homme peut-être indigne, et en tout cas bien léger. Un officier, nous l'avons aimé, nous lui avons tout donné, il y a 5 ans de cela. Mais il nous a oubliés, il s'est marié. Maintenant il est veuf, il a écrit, il va venir. Et sachez que c'est lui seul que nous avons toujours aimé toute la vie. Quand il sera ici, Grushenka sera de nouveau heureuse après ses 5 ans de tristesse. Que peut-on nous reprocher? Ce vieux marchand impotent? Mais c'était plutôt un père, un ami, un protecteur. Il nous a trouvés désespérés, blessés, abandonnés. Car elle voulait se noyer, ce vieillard l'a sauvée. Il l'a sauvée. Vous me défendez trop vivement, chère Barishnia. Vous allez un peu vite, traîna de nouveau Grushenka.
Je vous défends. Est-ce à moi de vous défendre? Qui oserait vous défendre? Grushenka, mon ange, donnez-moi votre main. Voyez cette petite main potelée, Alexei Fedorovitch, cette délicieuse petite main. C'est elle qui m'a apporté le bonheur, c'est elle qui m'a ressuscité. Et je veux la baiser dessus, dessous, et voilà, et voilà.
Et elle embrassait avec transport cette petite main, vraiment charmante, un peu trop charmante peut-être. Grushenka riait d'un rire nerveux et sonore, et se laissait faire. Il lui était visiblement agréable que la riche Barishnia lui baisa la main.
Quelle excessive exaltation, pensait Alyosha.
Oh, si vous croyez me rendre confuse, chère Barishnia, en baisant ma main devant Alexei Fedorovitch, vous vous trompez.
Mais ai-je donc voulu vous rendre confuse ? Dit Katerina Ivanovna un peu étonnée.
« Oh, cher, que vous me connaissez mal !»«
Mais peut-être me ne comprenez-vous pas non plus, cher Barishnia. Je suis peut-être moins bonne que vous ne pensez. Mon cœur est très corrompu. Je suis capricieuse, et c'est pour me moquer de Dmitri Fedorovitch que je l'ai séduit. »
Mais maintenant, vous le sauverez vous-même, vous me l'avez promis. Vous lui ferez entendre raison. Vous lui direz que depuis longtemps, vous en aimez un autre, que vous allez épouser.
Ah, non, 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 je ne vous ai pas promis cela. C'est vous qui avez dit tout cela, moi, pas du tout.
Je ne vous ai donc pas comprise, dit d'une voix sourde Katerina Ivanovna, en pâlissant légèrement.
« Vous avez promis... »«
Ah non, Angélique Barishnia, je ne vous ai rien promis !» dit d'une voix égale et douce Grushenka, sans perdre sa physionomie gaie et candide.
« Vous voyez, Barishnia, comme je suis mauvaise et capricieuse, je ne fais que ce qui me passe par la tête. Peut-être vous ai-je promis tout à l'heure... Mais maintenant je me dis, et s'il me plaît encore, ce Mitya? Une fois il m'a plu toute une heure, peut-être vais-je aller lui dire qu'à partir d'aujourd'hui il vivra chez moi pour toujours. Voyez, comme je suis inconstante. Mais tout à l'heure vous disiez tout à fait autre chose. Put à peine murmurer Katerina Ivanovna. « Oui, tout à l'heure. Mais si vous saviez comme j'ai le cœur changeant, comme je suis sotte. Songez donc combien il a souffert pour moi. S'il me vient de la pitié pour lui quand je l'aurai envoyé, que faire ?
Ah, je ne m'attendais pas à cela.
Eh, Barishnia, comme vous êtes meilleur et plus noble que moi. Peut-être allez-vous cesser de m'aimer en voyant quel caractère détestable j'ai. Donnez-moi votre jolie main, Angélique Barishnia. »
Elle prit respectueusement la main de Katerina Ivanovna.
« Je vais vous baiser la main comme vous avez baisé la mienne. Il me faudra bien 300 baisers pour m'acquitter des 3 que vous m'avez donnés. » Que faire, que faire ? À la grâce de Dieu, je voudrais vous contenter, mais ne faisons plus de promesses, les choses iront comme il plaira à Dieu. Quelle main, quelle charmante petite main, Barishnia, que vous êtes belle !
Elle porta doucement à ses lèvres la main de Katerina Ivanovna, dans le but étrange de s'acquitter des baisers qu'elle avait reçus. Katerina Ivanovna ne retira pas sa main. Elle espérait encore, timidement, mais elle espérait. Elle voulait croire que Grushenka désirait sincèrement la contenter et la jeune fille regardait avec anxiété l'étrange créature qui gardait toujours sa physionomie naïve, confiante, sa joie tranquille. « Elle est peut-être trop naïve, pensait Katerina Ivanovna, pour être si perverse. » Cependant, Grushenka, tout émerveillée de cette si jolie petite main, la portait lentement à ses lèvres. Ses lèvres l'effleuraient presque, quand elle s'arrêta pour réfléchir. « Savez-vous, mon ange, traîna-t-elle de sa voix la plus doucereuse, savez-vous, je ne vous baiserai pas votre main. » Et elle se mit à ricaner gaiement. « Comme vous voudrez, mais qu'avez-vous ? » s'exclama Katerina Ivanovna en tressaillant. « Gardez ce souvenir. Vous avez baisé ma main et moi je n'ai pas baisé la vôtre. » fit Grushenka avec des éclairs dans les yeux, en regardant fixement Katerina Ivanovna. Insolente ! S'écria Katerina Ivanovna, comme si elle eût compris tout à coup. Elle se leva rapidement, le visage en feu. Sans se hâter, Grushenka se leva à son tour. « Je vais conter à Mitya que vous m'avez baisé la main et que j'ai refusé de baiser la vôtre. Oh, oh, comme il va rire! Misérable, sortez !»« C'est honteux, Marichnia, c'est honteux et ça ne vous va pas de dire de telles paroles, ma chère Marichnia. Hors d'ici, femme vendue, hors d'ici !» Tous les traits de son visage tremblaient. Elle était défigurée par la colère. « Bon, vendu. Mais vous-même, jeune fille, vous allez le soir seule, chez les jeunes gens, chercher de l'argent, vendre votre beauté, oh, je sais tout. » Katerina Ivanovna poussa un cri. Elle allait se jeter sur Grushenka. Alyosha saisit la jeune fille et la retint de toutes ses forces. « Ne bougez pas, taisez-vous, ne lui répondez plus, elle s'en ira d'elle-même. » En cet instant accoururent les deux parentes de Katerina Ivanovna et la bonne. On s'empressa autour de la Marichnia. « Oui, oui, je m'en vais, » dit Grushenka, en prenant sur le divan sa mantille. « Mon cher Alyosha, accompagne-moi. »« allez-vous-en au plus vite !» supplia Alyosha en joignant les mains. « Accompagne-moi, Alyoshinka. J'ai un mot à te dire. Quelque chose de très joli, de très joli. C'est pour toi que j'ai organisé cette petite comédie. Allons, viens, ma colombe. Tu ne t'en repentiras pas. » Alyosha se détourna en faisant craquer ses doigts. Grushenka éclata de rire et sortit en courant. Katerina Ivanovna avait une crise de nerfs. Elle pleurait, les spasmes l'étouffaient. « Je vous avais prévenu, lui disait sa tante, je vous conseillais cette démarche. Vous êtes trop vive. » Vous ne connaissez pas ces femmes-là, et celle-ci est pire que toutes. Mais c'est un tigre, vociféra Katerina Ivanovna. Mais pourquoi m'avez-vous retenu, Alexei Fyodorovitch? Mais je l'ai assommé. Il faut qu'elle soit fouettée par le bourreau devant la foule. Alyosha fit quelques pas vers la porte. Dieu, s'écria-t-elle en joignant les mains. « Et lui, mais comment peut-il être si malhonnête, si cruel ? Il lui a raconté à cette ignoble créature ce qui s'est passé durant ce jour fatal, ce jour maudit, maudit. Vous êtes allé vendre votre beauté, Marichnia. Elle le sait. Ah, votre frère est un misérable, Alexei Fyodorovitch. » Alyosha voulut parler, mais il ne trouva pas un mot. Son cœur se serrait d'angoisse. « Allez-vous-en, Alexei Vitorovitch. J'ai honte. Oh Dieu, demain, je vous en conjure, venez demain. Ne me jugez pas. Pardonnez-moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire de moi. » Alyosha sortit. Il chancelait comme un homme ivre. Tout à coup, la bonne le rejoignit. « Ah, Marichnia a oublié de vous donner une lettre de Madame Kolkhalov. » Alyosha prit machinalement une petite enveloppe rose et la mit, sans y songer, dans sa poche. Le monastère n'était distant de la ville que d'une verste. Alyosha marchait vite. Il faisait déjà presque nuit. On distinguait à peine les objets à 30 pas. À moitié chemin, au centre d'un carrefour, se dressait un orme isolé, et contre l'arbre se profilait la silhouette d'un homme qui, aussitôt que parut Alyosha, se détacha de l'arbre en criant « La bourse ou la vie ?»« Oh, c'est toi, Mitya !» dit Alyosha avec surprise, en réprimant un frisson de terreur. « Ha, 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 tu t'attendais pas à celle-là ! Je me demandais où je devais t'attendre. Près de sa maison, j'aurais pu te manquer. Il y a 3 chemins, tandis que tu devais nécessairement passer par ici. Allons, parle, écrase-moi comme un cafard. Mais qu'as-tu ? » ?»«
Rien, frère, c'est un peu de frayeur. Ah, Dimitri, le sang de notre père, tout à l'heure. »
Alyosha pleurait. Depuis longtemps, il désirait pleurer. Il lui semblait que quelque chose se déchirait en lui.
Tu as failli le tuer, tu l'as maudit. Et voilà que maintenant, ici, tu plaisantes. La bourse ou la vie.
Et puis, c'est inconvenant.
Mais non, c'est...
Attends. Regarde cette nuit, vois comme elle est morne. Ces nuages, ce vent... Je me cache ici, sous cette orme, et je t'attends réfléchissant, en me disant, Dieu me soit témoin, à quoi bon me tourmenter encore ? Voilà l'arbre, la corde, mouchoir ou chemise, sera bientôt faite. Ce sera bientôt fait de débarrasser de moi la terre. Je t'entends marcher. Dieu, il me semble qu'un peu de bonheur tombe en moi. Je me dis, il y a donc au monde un homme que j'aime. Le voici, ce petit homme, ce cher petit frère que j'aime plus que tout au monde, le seul être que j'aime véritablement. Je t'aimais si fort en ce moment que je voulus me jeter à ton cou. Mais une idée sotte me vint. Je vais lui faire peur. Et j'ai crié comme un imbécile. La bourse, pardonne-moi. Au fond de l'âme, j'ai le sentiment de ma situation. Mais parle maintenant, qu'a-t-elle dit ? Allez, écrase-moi, frappe-moi, ne me ménage pas. Elle est furieuse ?
Non, au contraire. Il y avait quelque chose, là, Mitya, que tu ne soupçonnes pas. Je les ai trouvées toutes deux.
Qui, toutes deux ?
Grushenika et Katerina Ivanovna.
Dmitri Fyodorovitch resta stupéfait. Ce n'est pas possible. Tu rêves.
Grushenka chez...
Alyosha lui raconta tout ce qui venait d'arriver. Dmitri l'écoutait en silence, en le regardant en face avec une singulière fixité. Plus le récit avançait, plus son visage devenait sombre, menaçant. Il fronçait le sourcil, grinçait des dents. Son regard devenait encore plus fixe, plus terrible. Tout à coup, avec une rapidité inouïe, il changea le visage. Ses lèvres contractées se desserrèrent, et il éclata du rire le plus franc, le plus irrésistible.
Oh, alors elle lui a pas baisé la main ? elle est partie sans lui baiser la main !» s'écria-t-il dans un transport maladif qu'on eût pu dire infâme s'il eût été moins artificiel. Et l'autre l'a appelé tigre. Elle ne se trompe pas. Et il faut la livrer au bourreau, évidemment. Ce devrait être fait depuis longtemps. C'est un gibier d'échafaud, en effet. Elle est tout entière dans cette action, cette reine d'insolence, cette reine des furies, de toutes les pires créatures possibles. Et elle est chez elle. Oh, j'y vais tout de suite, j'y vais. Ne m'accuse pas, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait l'écraser. Et Katerina Ivanovna dit tristement à Alyosha, « Oh, celle-là, je la comprends aussi. Je la vois plus que jamais. C'est la merveille des quatre parties du monde, je veux dire des cinq. Une telle démarche. C'est bien la même Katinka, cette pensionnaire qui n'a pas craint de venir chez un officier débauché par dévouement pour son père, au risque des suprêmes outrages. Quel orgueil, quelle soif de danger, quel désir de se mesurer avec la destinée. Oh, quel appétit d'infini. Sa tante la retenait vraiment en vainement, n'est-ce pas? Je puis tout vaincre, tout va me céder, j'ensorcellerai Grushenka elle-même. Elle y croyait certainement, à qui la faute? Tu penses que c'est par calcul, par ruse, qu'elle a baisé la première là-bas de Grushenka? Non, c'était de bonne foi. Elle avait pris Grushenka en affection. C'est-à-dire, pas Grushenka, mais son idée à elle, son rêve, son désir. Car, pensait-elle, c'est mon rêve, c'est mon idée. Et Alyosha, comment as-tu échappé à de pareilles femmes? Tu t'es enfui en retroussant ta robe? Frère, tu ne songes même pas à l'offense que tu as faite à Katerina Ivanovna en confiant à Grushenka l'histoire de ce jour, tu sais. Grushenka la lui a jeté à la figure comme un défi. Quelle pire offense, frère! Alyosha était inquiet et fâché du plaisir que semblait causer à Dimitri l'humiliation de Katerina Ivanovna. « Baste !» fit Dimitri en fronçant les sourcils et en se frappant le front. « En effet, je lui ai conté cela, me le rappelle. Ben, c'était le jour que je t'ai dit quand j'étais ivre, pendant que les tzigales chantaient. Mais je sanglotais en disant cela. J'étais à genoux devant l'idée de Katia, et Grushenka le comprenait, elle pleurait. Oh, diable, elle pleurait alors, et maintenant? Maintenant, elle se sert d'une confidence comme d'un poignard. Voilà les femmes. » Il resta quelque temps absorbé. « Oui, je suis un misérable, » dit-il d'une voix profonde. « Qu'importe que j'ai dit cela en pleurant, je n'en suis pas moins odieux de l'avoir dit. Réponds là-bas que j'accepte toutes ces condamnations, si cela peut la consoler. Mais assez, allez, adieu. Ouf. Notre conversation n'est pas gaie, pauvre ami. Poursuivons chacun notre route. Je ne veux plus te revoir avant le dernier moment. Allez, adieu, Alexei. » Il serra fortement la main d'Alyosha, sans relever la tête, et se dirigea à grands pas vers la ville. Alyosha le suivit du regard, ne pouvant croire ce départ définitif. « Alexei, encore un mot, à toi seul, » dit Dmitri, qui en effet revint sur ses pas. « Regarde-moi bien. Vois-tu, ici, je tiens en réserve la plus abominable des infamies. Ici !» Et en disant « ici », Dmitri se frappait la poitrine. Sa physionomie était indescriptible. « Tu me connais, je suis un misérable, un assuré misérable. Mais quoi que j'ai fait, quoi que je puisse faire encore, rien n'égale l'infamie que je porte maintenant sur ma poitrine. L'infamie que je pourrais étouffer, remarque-le, mais que je n'étoufferai pas. Non, je la commettrai, sache-le bien. Si j'y renonçais, je pourrais reconquérir toute mon honnêteté, mais je n'y renoncerai pas. Je réaliserai mon ignoble dessein, et sois moi témoin que je te le dis dès maintenant. L'abîme, la nuit, inutile de t'expliquer, le temps t'apprendra, la boue et l'enfer. Adieu, ne prie pas pour moi, n'en suis pas digne. D'ailleurs, c'est inutile, je ne veux pas de prière. Sors de mon chemin. Et il partit, cette fois, vraiment. Alyosha s'en alla au monastère. Quoi, je ne le reverrai plus? Oh, dès demain, j'irai le chercher. Mais que dit-il? Il avait encore le cœur serré quand il entra au monastère. Pourquoi? Pourquoi en était-il sorti? Pourquoi l'avait-on envoyé dans le monde? Ici, le repos, la sainteté, là, le trouble, la nuit inextricable. Dans la cellule veillaient le novice Porphyri et l'archiprêtre, le père Païssy, qui toute la journée était venu à chaque heure prendre des nouvelles du père Zossima. Le starets allait de pis en pis. Comme Alyosha l'apprit avec douleur, il s'affaiblit, il somnole, dit doucement le père Païssy à Alyosha. On peut à peine le réveiller. D'ailleurs, à quoi bon? Il s'est réveillé tout à l'heure pour 5 minutes et a demandé qu'on portât sa bénédiction à la communauté afin qu'elle priât pour lui. Il a parlé de toi, Alexeï. Il a demandé où tu étais. On lui a dit que tu étais allé à la ville. « Qu'il soit béni, a-t-il dit. Là-bas est sa place, non pas ici. Tu es un de ses grands soucis. Vois, quel honneur pour toi. Mais comment t'assigne-t-il ici une place dans le monde? Il lit sans doute dans tes destinées. Mais ton passage dans le monde sera pour toi une épreuve. Comprends-le, Alexeï. Ne crois pas que les starets s'entendent te livrer aux pompes et aux œuvres du siècle. » Le père Païssy sortit. Alyosha ne doutait pas que le starets ne touchât à ses derniers instants. Peut-être prolongerait-on sa vie d'un jour ou deux. Alyosha décida que, malgré qu'il eût promis de revoir son père, son frère, les Khlalkov et Katerina Ivanovna, il ne sortirait pas le lendemain du monastère et resterait auprès du starets jusqu'à sa fin. Il se reprochait amèrement d'avoir pu un seul instant, là-bas, dans la ville, oublier le saint qui gisait sur son lit de mort. Il entra dans la chambre à coucher du starets, s'agenouilla et salua jusqu'à terre le mourant. Le starets dormait doucement. À peine entendait-on sa respiration. Son visage était calme. Retournant dans la chambre voisine, Alyosha, sans se déshabiller, s'étendit sur un étroit divan couvert de cuir où il passait depuis longtemps les nuits. Mais avant de s'endormir, il se jeta à genoux et fit de longues prières. Dans sa ferveur, il demandait à Dieu de dissiper ses troubles, de lui rendre la paix dont il jouissait naguère. Tout à coup, il sentit dans sa poche la petite enveloppe rose que Katerina Ivanovna lui avait fait remettre. Il tressaillit, mais termina sa prière. Puis, après quelques hésitations, il déchira l'enveloppe.
Elle contenait un petit billet à lui adressé et signé Lisa. C'était de cette même jeune fille, Mademoiselle Hochlakoff, qui se moquait de lui dans la matinée devant le Staretz. Alexei Fedorovitch, je vous écris en secret de tout le monde, même de maman. Je sais que cela est mal, mais je ne peux plus vivre sans vous faire savoir ce qui est né dans mon cœur et ce que personne d'autre que nous deux ne doit savoir, au moins pendant quelque temps. Mais comment vous dire ce que je veux vous dire? On dit que le papier ne rougit pas. Oh, je vous jure que c'est faux, et que lui et moi, nous sommes tout rouges. Cher Alyosha, je vous aime. Je vous aime depuis notre enfance, depuis Moscou, alors que vous étiez bien différent de ce que vous êtes. Et je vous aime pour toute la vie. Vous êtes l'élu de mon cœur. Il faut que nous passions notre vie ensemble jusqu'à nos vieux jours, à condition, bien sûr, que vous quittiez le monastère. Quant à notre âge, bien nous attendrons autant que la loi l'exige. Alors je serai guéri, je marcherai, je danserai, il n'y a pas de doute à cela. Vous voyez que j'ai tout calculé. La seule chose que je ne puisse prévoir, c'est l'opinion que vous aurez de moi après avoir lu cette lettre. Je ris toujours, je plaisante, et ce matin encore je vous ai fâché. Mais je vous assure que tout à l'heure, en prenant la plume, j'ai prié devant l'image de la Sainte Vierge, en pleurant presque. Mon secret est entre vos mains. Demain, quand vous viendrez, je ne sais même pas si je pourrai vous regarder. Ah, Alexei Fyodorovitch, qu'arrivera-t-il si je ne puis m'empêcher d'éclater de rire en vous regardant? Vous me croirez folle. Mais je vous en prie, ami, si vous avez de la pitié pour moi, ne me regardez pas trop en face quand vous viendrez, car rien ne pourra peut-être m'empêcher de rire en vous voyant dans votre longue robe. Rien qu'en y pensant, il faut que je fasse un effort pour rester sérieuse. Quand vous serez entrée, ne me regardez pas tout de suite. Regardez maman ou la fenêtre. Voilà ma lettre d'amour écrite. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Alyosha, ne me méprisez pas. Si c'est mal, si cela vous peine, pardonnez-moi. Ma réputation maintenant dépend de vous. Je sens que je vais pleurer. Au revoir jusqu'à cette entrevue terrible. Lise. Post-scriptum. Allez au chat, venez absolument, absolument, absolument. Lise. Alyosha lut cette lettre deux fois avec étonnement. Il resta songeur, puis sourit de plaisir, doucement, puis tressaillit. Ce sourire lui avait paru coupable. Il remit la lettre dans l'enveloppe sans se hâter, fit un signe de croix et se coucha. Tout son trouble intérieur était dissipé. Seigneur, garde-les tous, protège les malheureux et les révoltés, conduis-les, rectifie leur voie. Tu es l'amour, tu peux à tous dispenser la joie, murmura-t-il en faisant des signes de croix. Puis il s'endormit du sommeil des innocents.